Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Je suis content que si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bien bonjour messieurs, dames et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culturez-vous, l'émission de pop culture de Transistor. Comme vous le savez, chez Culturez-vous, on aime varier les plaisirs et partir à la rencontre de ceux et celles qui font la culture populaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des grandes figures de cette pop culture, une femme hors norme devenue icône. Artiste, féministe, avant-gardiste, cette jeune Mexicaine aura tout au long de sa vie marqué les esprits par sa force et son génie. Une silhouette petite et fine, des cheveux noirs coiffés de grandes fleurs, un visage au regard sombre et perçant, surplombé d'un mono-sourcil et toujours accompagné de grandes robes colorées, voilà le rapide portrait que l'on pourrait faire de la peintre mexicaine Frida Kahlo. Si sa description vous parle, c'est que vous avez certainement vu son visage sur l'un de ses tableaux, mais peut-être aussi sur un des nombreux produits dérivés à l'effigie de l'artiste. Au fil des années, Frida Kahlo est presque devenue une marque à l'instar de Marilyn Monroe ou de la Joconde. Mais pour celle qui était une communiste foncièrement anticapitaliste, c'est quand même un comble. Quand certains crient au scandale marketing, d'autres saluent l'image utilisée pour appuyer des luttes, notamment féministes. Mais dans tous les cas, c'est un fait. De la coque de téléphone aux affiches de manif, Frida est partout. Mais qui est vraiment Frida Kahlo? Comment la petite éclopée de la banlieue de Mexico a réussi à devenir une icône aussi politique qu'artistique? Sa peinture devenue emblématique, sa vie semée d'embûches, ses douleurs perpétuelles et sa relation tumultueuse avec son mari, le peintre Diego Rivera, on va découvrir aujourd'hui l'histoire assez incroyable de Frida Kahlo, la peintre révolutionnaire qui marqua à jamais l'histoire de l'art. Alors c'est parti, installez-vous bien confortablement et ouvrez grand vos oreilles. Je m'appelle Audrey, bienvenue dans Culturez-vous. Nous sommes au Mexique à la fin du 19e siècle quand le jeune Carl Wilhelm Kahlo débarque de son Allemagne natale. Il change alors de prénom pour prendre celui de Guillermo et rencontre ensuite celle qui deviendra sa femme, Mathilde Calderón y González, une jeune Mexicaine d'origine amérindienne. En 1904, ils construisent une maison dans le quartier aisé de Coyoacán, au sud de Mexico. Surnommée la Casa Azul, en hommage au bleu cobalt qui colore ses murs, la maison de la famille Kahlo deviendra au fil des années aussi célèbre que ses occupants. 3 ans plus tard, après Mathilde et Adriana et avant Cristina, les Kahlo accueillent leur 3e fille, la petite Magdalena Frieda Carmen Kahlo, qui naît directement dans leur Casa Azul. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai bien prononcé le prénom de Frieda et non Frida. Et comme vous vous en doutez peut-être, ce n'est pas un hasard. Frieda est à la base un prénom d'origine allemande, comme son père, qui signifie « paix ». Mais la jeune femme décidera de le dégermaniser dans les années 30 en signe de contestation après l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne. Frieda deviendra donc Frida, et tout le monde la connaîtra comme ça. Donc si vous le voulez bien, je ne vais pas attendre d'en être si loin dans mon récit pour me permettre de l'appeler Frida. Allez, après cette petite parenthèse, revenons à l'enfance de l'artiste. Des experts affirment que dès sa naissance, Frida Kahlo était atteinte de spina bifida, une malformation congénitale qui se caractérise par un développement incomplet de la colonne vertébrale. Ce qui expliquerait de nombreuses douleurs dont a souffert la peintre tout au long de sa vie. Malheureusement pour elle, ce n'est que le début d'un long chemin pavé de souffrances. Dès l'âge de 6 ans, elle contracte une poliomyélite qu'on appelle plus communément la polio. Maladie virale ultra-violente, la polio a des conséquences irréversibles sur le corps, infligeant notamment aux personnes touchées des paralysies au niveau des membres inférieurs et des douleurs chroniques présentes à vie. La petite Frida Kahlo connaît dès l'enfance la maladie et la douleur permanente, notamment avec sa jambe droite estropiée par la polio. Une fois la maladie contractée, la petite fille est contrainte à l'isolement et devra rester chez elle. Ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'elle peut enfin retourner sur les bancs de l'école. Mais quand elle retrouve la cour de récré, Frida doit faire face à la méchanceté et aux moqueries des autres élèves. Traitée d'éclopée et de jambe de bois par ses camarades, Frida souffre, mais encaisse. Encore une fois. Mais son père, bien décidé à défendre sa fille préférée, lui donne alors accès à des activités peu conventionnelles pour l'époque. Natation, boxe, lutte, Frida s'essaie à tout pour développer ses muscles et gagner en mouvement. Elle pratiquera également le dessin et fera ses premiers pas en peinture en colorisant au pinceau les photos de son père. La peinture d'ailleurs est pour elle le seul moyen de s'exprimer et d'exulter ses douleurs physiques et psychologiques. Mais ça, elle le découvrira vraiment quelques années plus tard lors d'une des plus terribles épreuves de sa vie.
Ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, que el conejo va a salir, búscalo aquí, que búscalo allá, que el conejo va a salir.
¿Cómo que te va?
De retour sur Transistor, où vous écoutez toujours Culturez-vous, qui vous parle aujourd'hui de la célèbre peintre mexicaine Frida Kahlo. Enfant, la petite Frida, qui souffre déjà d'un corps mal formé par la polio, est toujours soutenue par son père Guillermo. En plus de la pousser à pratiquer des activités physiques jusqu'alors réservées aux garçons, il initie également sa fille aux sciences, à la philosophie et surtout à la photographie. Car Guillermo Kahlo est lui-même photographe. C'est même l'un des photographes officiels du gouvernement. Mais ça, c'est avant que n'ait lieu la révolution de 1910. À ce moment-là, c'est le général Porfirio Díaz qui est à la tête du Mexique. Particulièrement aidant avec les habitants fortunés, il vend de nombreuses terres, notamment indigènes, aux riches mexicains. Plus de 90% des paysans mexicains ne possèdent aucune terre et continuent à trimer pour vivre. La population, portée par Francisco Madera, Emilio Zapata ou Pancho Villa, décide de se révolter. De guérilla en rébellion, de nouveau président en assassinat, le Mexique a connu pendant 10 ans une véritable révolution, pleine de violence et de revendications. Il faudra attendre 1920 et l'élection d'Alvaro Obregón pour que les choses se tassent. Le père de Frida, qui a donc perdu son emploi lors de la chute du pouvoir de Diaz en 1910, continue malgré tout de faire de la photo. Beaucoup moins prestigieuse, certes, mais il arrive à gagner sa vie en faisant des portraits ou des photos de mariage. Et il aime mettre sa petite Frida à contribution. Il lui apprend les techniques de photographie, comme la lumière ou le cadre. On retrouvera d'ailleurs cette précision photographique dans de nombreuses toiles de Frida Kahlo, notamment sur ses portraits.
Culturez-vous, c'est sur Transistor avec Audrey.
Au Mexique, l'après-révolution est une période charnière. Le gouvernement veut mettre en avant le peuple et valoriser l'éducation des enfants. Frida Kahlo est une excellente élève. En 1922, alors âgée de 15 ans, elle se présente à l'examen d'entrée de l'école préparatoire nationale. Sa mère est contre, mais ça n'empêche pas Frida de foncer. Sur les 2000 élèves admis, Frida fera partie des 35 filles autorisées à rejoindre cette école d'élite. Frida choisit la médecine. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on retrouvera plus tard cette précision médicale dans ses dessins et ses peintures. En attendant, l'étudiante est déjà bien décidée à bousculer les codes. Celle qui préfère les pantalons et bottines aux robes bien plissées intègre même les cachuchas. Le gang des casquettes, comme on les appelle, réunit des étudiants socialistes revendiquant leur héritage indien. Elle le dit elle-même « Je m'aime comme je suis ». N'en déplaise à sa mère, fervente catholique aux valeurs classiques et conventionnelles. Les relations entre elle et Frida ont toujours été compliquées, même si l'amour était bien présent. Leur façon de vivre, leur vie et leurs convictions étaient diamétralement opposées. Parce que des convictions, Frida, elle en a. Foncièrement communiste, elle côtoie des groupes politisés et s'engage très vite avec d'autres jeunes. Très marquée par la Révolution, elle mentira même sur sa date de naissance en racontant à qui veut l'entendre qu'elle est née en 1910 et non 1907, 1910 étant le début de la Révolution mexicaine. Frida est donc une adolescente anticonformiste et révolutionnaire quand elle rencontre pour la première fois celui qui sera son futur mari et amour de sa vie, Diego Rivera.
Viva la vida que ayer.
Diego Rivera est lui aussi un peintre mexicain, mais il est ce qu'on appelle un muraliste. Au tableau sur chevalet, ce communiste et révolutionnaire convaincu préfère les grandes fresques murales. Dans la rue, sur les murs des bâtiments ou des écoles, ses immenses peintures s'affichent partout au Mexique. Avec ses dessins au style très simple et aux couleurs vives, Diego peint le peuple pour le peuple. Ce qu'il veut, c'est exalter la beauté des petites gens, montrer leur lutte et leur courage, et surtout que tout le monde puisse les voir. Toute sa vie, Diego Rivera aura craché sur l'art qu'il considère élitiste et réservé aux intellectuels. Toute sa vie, il aura voulu faire de ses œuvres des propriétés publiques. Connu et reconnu par le gouvernement mexicain, Diego Rivera répond aux demandes de réalisation de fresques au Mexique, mais aussi en Europe. Il y passera de nombreuses années d'ailleurs, l'occasion de rencontrer d'autres artistes, dont Picasso, Apollinaire ou Modigliani, avec qui il se liera d'amitié. Diego rencontrera aussi de nombreuses femmes, certaines qu'il fréquentera officiellement et dont il aura des enfants, et d'autres simples maîtresses avec qui il aura également des enfants mais qu'il ne reconnaîtra jamais. Et oui, c'est l'un des aspects de Diego Rivera. Il captive et séduit des femmes en permanence. Et pourtant, de premier abord, on ne miserait pas beaucoup sur le charme de l'homme. Il est aussi grand que large d'épaules, ses quelques cheveux noirs reposent sur un visage rond, aux yeux lourds et au regard un peu triste. Mais écoutez plutôt la description qu'en faisait Frida Kahlo, retranscrite de son journal intime et lue au micro de Radio France.
C'est un ogre, un géant. Sa forme physique est celle d'un monstre, mais c'est un grand enfant. En les voyant tous nus, on pense immédiatement à un enfant grenouille, debout sur ses pattes arrière. Sa peau et d'un blanc verdâtre, comme celle d'un animal aquatique. Seules ses mains et son visage sont plus sombres parce qu'ils ont été brûlés par le soleil. Dans les moelleux prolongements de ses épaules juvéniles, étroites et rondes, des bras féminins s'achèvent sur de merveilleuses mains, toutes petites et finement dessinées. Sensibles et subtiles, comme des antennes qui communiquent avec l'univers tout entier.
La première fois que Frida Kahlo et Diego Rivera se rencontrent, la jeune étudiante a 15 ans et le peintre 20 ans de plus. Il réalise alors des fresques au sein de son école. Mais il faudra attendre quelques années pour être présenté officiellement. Entre-temps, à l'âge de 18 ans, Frida va subir un grave accident qui va changer sa vie à jamais. Le 17 septembre 1925, elle sort de l'école avec son petit ami de l'époque et tous deux prennent le bus pour rentrer chez eux. C'est sur la route qu'un tramway va alors venir percuter le bus de plein fouet. De ce moment, Frida dira « un choc étrange ». Il n'était pas violent, mais sourd, lent, blessant tout le monde. Ce terrible accident provoque de nombreux morts et blesse très gravement plusieurs passagers, dont Frida. Elle est littéralement transpercée par une barre de fer de l'abdomen au vagin. Transportée à l'hôpital par la Croix-Rouge, elle va alors rentrer dans une ère d'affreuse souffrance. Sa colonne vertébrale est brisée, comme son bassin et ses deux côtes. Ses jambes et sa clavicule sont fracturées. Les radios qu'elle a passées indiquent que trois vertèbres sont aussi déplacées. Elle doit porter d'énormes corsets de plâtre qui l'immobilisent et l'obligent à rester allongée. Suite à l'accident, Frida va passer 3 mois alitée. D'abord à l'hôpital, puis chez elle, à la Casa Azul. Au total, elle subira plus de 30 opérations, dont plusieurs seront des échecs. Ses rêves de devenir médecin s'évanouissent, Frida déprime, jusqu'au jour où ses parents lui apportent de la peinture. Dans un premier temps, elle dessine et peint directement sur ses corsets. Puis, son père a l'idée de lui fabriquer un chevalet adapté à sa position. C'est une révélation. Frida se lance dans une passion qui va devenir vitale pour elle. Elle dira même « Je ne suis pas morte et j'ai une raison de vivre. Cette raison, c'est la peinture. »
Une émission de culture populaire, c'est Culture et vous, sur Transistor.
Elle peint ses émotions et ses douleurs. Sur la scène de l'accident lui-même, il n'y aura pourtant qu'un seul dessin, au crayon et sans couleur. Elle le fera, un an jour pour jour après le drame, et y représentera son corps, entouré de l'autobus et du tramway, ainsi que d'autres corps gisant au sol. D'opération en changement de corset, Frida souffre, mais tient bon. Toujours passionnée de peinture, on lui accroche un miroir au-dessus de son lit à baldaquin, et grâce à ce reflet, elle deviendra même son premier modèle. Quand enfin elle peut sortir de son lit et remarcher, Frida continue de peindre et se lance encore plus dans la politique. En 1928, elle prend son adhésion au Parti communiste mexicain. C'est cette même année que, grâce à leur amie commune, la photographe italienne Tina Modotti, que Frida va réellement rencontrer Diego Rivera. À ce moment-là, Diego est déjà un peintre connu et reconnu dans le monde entier. Mais Frida, bien déterminée, va aller le voir pour lui demander son avis sur ses tableaux. Pas de complaisance ni d'indulgence, elle veut un regard sincère et critique sur ses œuvres. C'est alors le coup de foudre pour Diego Rivera. Il dira même des toiles de Frida, elle véhiculait une sensualité vitale, encore enrichie par une faculté d'observation impitoyable, quoique sensible. Pour moi, il était manifeste que cette jeune fille était une véritable artiste. Les deux peintres partagent leur passion de l'art et du communisme et tombent très vite très amoureux. Ils se marient en août 1929 au grand dam de la mère de Frida qui voit d'un très mauvais œil l'union de sa jeune fille avec Diego de 20 ans son aîné. Elle dira même que c'est le mariage d'un éléphant et d'une colombe. Mais comme à son habitude, Frida s'en fiche. Ils s'installent dans un atelier à Mexico et commencent leur vie de jeune mariée. Frida est raide dingue de son mari. Mais celui-ci ne tarde pas à la tromper, encore et encore. De dispute en pardon, les amoureux se déchirent mais s'aiment passionnément. C'est donc un amour tumultueux, voire toxique sur les bords, qu'ils vont connaître tout au long de leur vie.
La vida que ayer, se fue. Vivan las sombras de mis voces llorando lejos. Vivan los sueños.
En 1930, quelques temps seulement après leur mariage, Frida et Diego partent pour les États-Unis afin que celui-ci honore des contrats signés chez l'oncle Sam. New York, San Francisco, Détroit, l'artiste doit produire plusieurs fresques. Et c'est durant ces 3 années américaines que Frida tombera enceinte, mais sera endeuillée à chaque fois par une fausse couche. Son accident de bus ayant provoqué un syndrome d'Asherman, lui empêchant d'avoir des enfants. Ces drames seront pour Frida des nouvelles épreuves à traverser, et comme à chaque fois, c'est grâce à la peinture qu'elle arrivera à exorciser ses douleurs. Et dans ces peintures, justement, il n'y a ni filtre, ni restriction. Comme dans son tableau Henry Ford Hospital, par exemple. Réalisé en 1932, Frida y représente toutes ses douleurs, psychologiques et physiques, liées au drame qu'elle vient de vivre. Sur ce tableau, on peut voir en fond un désert désolé avec au premier plan un lit d'hôpital sur lequel elle est allongée, gisant dans une mare de sang. Elle est reliée par un cordon ombilical à un petit fœtus, un os pelvien et un escargot. C'est la première fois que l'on voit dans des peintures des vérités aussi nues. Tristesse, solitude, désespoir, féminicide, fausse couche et même nudité, personne n'avait jusque-là osé se représenter comme ça. Et c'est aussi ça, la force et le génie de Frida Kahlo. Elle peint sa réalité telle qu'elle la voit. Elle ne veut pas enjoliver ses émotions, ni les rendre plus digestes aux yeux du monde. Comme pour ses autoportraits, où elle n'adoucit jamais ses traits, et insiste au contraire sur ce que les autres peuvent voir comme des défauts, à l'instar de ses sourcils très fournis et même de sa légère moustache. Et c'est sans doute ça qui a plu aux surréalistes français. En 1939, elle est invitée à Paris par le peintre André Breton qui veut consacrer une exposition à celle qu'il qualifie de « ruban sur une bombe ». Oui mais voilà, l'expo ne se passe pas du tout comme prévu. Breton ne gère rien du tout et c'est finalement grâce à un autre peintre, Marcel Duchamp, que quelques tableaux de la mexicaine peuvent être exposés. Pas tous par contre, parce que bon, vous comprenez, ici à Paris, ça peut choquer. Frida Kahlo est furieuse. Elle écrira même dans des lettres envoyées depuis Paris et je cite « J'ai décidé de tout envoyer au diable et de me casser de ce Paris pourri avant de devenir folle. Tu n'as aucune idée du genre de salauds que sont ces gens. Ils me font vomir. Ils sont tellement intellectuels et pourris de l'intérieur que je ne peux plus les supporter. C'est vraiment trop pour moi. Je préfère m'asseoir par terre au marché de Toluca pour vendre des tortillas que d'avoir affaire à ces chiennes artistiques de Paris. » Le ton est donné. Frida, c'est aussi ça. Une force de caractère à toute épreuve et des convictions inébranlables. Toute sa vie, elle aura été une féministe convaincue, une avant-gardiste assumée et une communiste engagée. C'est d'ailleurs l'un des piliers de sa relation avec Diego, leur militantisme communiste. En janvier 1937, le couple recueille d'ailleurs Léon Trotsky et sa femme Natalia. Le révolutionnaire soviétique est à ce moment-là en fuite. En opposition avec Staline depuis son arrivée à la tête de l'URSS, il a été exilé de la Russie, mais il est surtout menacé de mort par celui-ci. C'est donc en tant que demandeur d'asile politique que le couple Trotsky débarque au Mexique à la Casa Azul. Va alors commencer une liaison passionnée entre le vieux bolchevique et la jeune peintre. Malgré les 28 ans qui les séparent, ils vont entretenir une liaison cachée durant quelques temps. Frida est à ce moment-là dans une phase où elle en veut énormément à Diego. Depuis 9 ans, il n'a de cesse de la tromper, mais cette fois il est allé encore plus loin. Il a couché avec Christina, sa sœur cadette, pendant 2 ans. En 1938, le couple divorce. Et même si Frida ne s'est pas gênée pour aller voir d'autres hommes ou d'autres femmes avant son divorce, cette relation avec Trotsky est différente. Plus forte, plus intense, elle marque un tournant pour Frida, qui dira même que sa rencontre avec Trotsky fut, et je cite, « l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée », et que cette période fut l'une des plus fécondes de sa vie de peintre. Mais au bout d'un moment, Frida décide de mettre fin à sa relation avec celui qu'elle appelle Barbichette. Les tensions avec Diego et la femme de Trotsky qui soupçonnent quelque chose sont de plus en plus vives. Les Trotsky déménagent alors quelques rues plus loin. Et c'est en 1940 que Léon sera assassiné dans le quartier de Coyoacán d'une balle dans la tête.
La pop culture, c'est sur Transistor avec Audrey.
Cette même année, Frida se rend à San Francisco pour être soignée. Encore une fois, sa colonne vertébrale l'a fait énormément souffrir. Diego, qui est aussi là-bas, va revoir Frida, bien sûr. Mais surtout, il va la redemander en mariage. Toujours folle amoureuse, elle accepte et le couple se marie dans la foulée. Ils redéménageront dans la maison de Frida, la Casa Azul, après la mort de son père en 1941. Nouveau départ, nouvelle règle. Fini les écarts et les tromperies. Frida travaille alors pour le gouvernement et diffuse la culture mexicaine à travers le monde. Elle est aussi prof d'art, mais doit enseigner de chez elle. Sa santé se détériore tellement qu'elle doit porter maintenant un corset de métal. Ce corset deviendra d'ailleurs le symbole d'un de ses plus grands tableaux, la colonne brisée. Le tableau la met en scène, torse nu, encerclée dans son corset, la colonne vertébrale symbolisée par une colonne antique brisée, le corps recouvert de clous et des larmes coulant de ses yeux noirs. du pur Frida Kahlo. Quelques années plus tard, en 1953, arrive la première exposition au Mexique dédiée à l'artiste. Sur ordre du médecin, Frida ne peut se déplacer. Qu'à cela ne tienne, elle se fera transporter directement sur son lit, de la Casa Azul jusqu'à la salle d'exposition. La même année, elle doit se faire amputer de sa jambe droite, touchée par la gangrène. Et ça, Diego l'avait prédit. Si vous lui coupez la jambe, elle va mourir. C'est l'année suivante, en 1954, une semaine après son 47e anniversaire, qu'on apprendra la mort de la grande et l'unique Frida Kahlo. Emportée par une pneumonie, elle sera incinérée, refusant d'être enterrée couchée car elle avait trop souffert de cette position durant toute sa vie. Ses cendres reposent actuellement dans sa Casa Azul, dans une urne de la forme de son visage. Viva la vida, viva Frida! Without you.
But the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly.
Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais je vous retrouve très vite pour une prochaine émission qui, je vous l'assure, sera pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture. Et en attendant, je vous fais des bisous, des bécos, et vous dis à tantôt.
Aye, oh.
Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Je suis content que si on n'avait pas perdu une heure et quart. On serait là depuis une heure et quart.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.